CFM Cahors, le mag.
Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre magazine avec aujourd'hui eh bien, un rassemblement par l'équipe de scénographes. Vous savez, c'est l'association qui est au Théâtre de l'Usine à Saint-Céré qui appelle à un rassemblement ce samedi 20 mars. Alors pour comprendre toujours mieux, au cas où vous avez loupé effectivement l'interview que nous avions faite de Véronique Dole, c'était le 5 mars dernier, nous la réécouterons en deuxième partie d'émission et on vous redonnera effectivement le lieu de cette manifestation. Sinon, vous l'avez reçu, il est tout beau, il est tout neuf, ou alors en tout cas, vous allez le recevoir dans votre boîte aux lettres. C'est le numéro 100 de Cahors Mag, avec un numéro eh bien, qui fait d'un côté, il y a le classique, quoi, hein, le numéro tel qu'on les connaît actuellement. Et puis, si vous retournez le magazine, eh bien, vous avez une rétrospective depuis 1975. Notre premier invité, c'est le maire Jean-Marc Vessousfort, qui est responsable évidemment de cette revue, qui nous parle des évolutions de cette revue, qui sont venues et qui sont peut-être à venir, et puis surtout qu'est-ce que l'on y trouve, et on l'écoute de suite. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est le mag.
Alors le Cahors Magazine est le magazine municipal qui a vocation à parler de ce que fait la collectivité bien évidemment, mais aussi de témoigner de tout ce qui peut se passer dans la ville, de l'investissement des hommes et des femmes qui font cette ville, et donc il est à la fois au service évidemment de la politique municipale pour la décrire, pour l'expliquer, cette volonté pédagogique, mais aussi de faire ce relais avec tout ce qui peut se faire sur cette ville et qui en fait toute l'âme et toute l'identité.
Le premier numéro, c'était en 1975. Qu'est-ce qui a évolué entre 1975 et 2021? Beaucoup, j'imagine, beaucoup de choses.
Oui, beaucoup de choses. C'est sûr qu'en 1975, d'abord, il n'y avait pas la couleur, c'était en noir et blanc. Et puis, forcément, il y avait beaucoup de textes, quoi. Alors aujourd'hui, je pense que dès qu'il y a beaucoup de textes, c'est quand même plus compliqué. On veut de l'image, on veut prendre le temps, hein. C'est quand même la particularité de cette revue par rapport à tout ce qu'on pourrait imaginer sur les nouveaux médias, par exemple. Donc on prend quand même le temps de lire, d'aller en profondeur. C'est pour ça qu'on est attaché au fait qu'il soit sur papier. Mais c'est vrai qu'il a fallu le rendre attractif, il a fallu que tout de suite il y ait des images, des éléments qui attirent de suite l'attention. Et puis il y a aussi des rubriques qui se sont installées et auxquelles les cadurciennes et les cadurciennes font part de leur attachement. Je pense évidemment à la tribune de l'opposition, ça fait aussi partie du jeu démocratique. Je pense aussi à toutes les informations sur les nouveaux commerces. C'est quelque chose qui est très attendu parce qu'on est heureux de savoir qu'est-ce qui arrive, les nouveaux commerces qui s'installent dans la ville. Puis ensuite, évidemment, comprendre les grands projets qui sont portés par cette ville. On parle beaucoup de démocratie participative, on parle beaucoup de l'obligation aujourd'hui d'associer un petit peu les citoyens. Et évidemment, ce magazine y participe parce qu'il permet d'avoir souvent le début des projets, où on en est, les premières esquisses. Et ça permet aussi de nourrir le débat et pour nous de mieux adapter aussi derrière nos projets.
Monsieur le maire, il y a 6 numéros par an, vous pouvez nous parler un petit peu de l'équipe qui travaille quand même dessus, qui, il faut bien le préciser, c'est tout en interne de A à Z.
Oui, alors c'est ça qui en fait un petit peu la spécificité, c'est qu'il est réalisé totalement en interne. Donc il n'y a que évidemment l'impression, puisqu'on n'a pas de, vous vous en doutez, d'imprimerie à l'intérieur de la collectivité. Mais ensuite, tout ce qui est texte, tout ce qui est graphisme, tout ce qui est photo est fait par le service communication. Et donc, c'est 4 ou 5 personnes qui travaillent aujourd'hui sur la réalisation de ce magazine qui est bimestriel. Ça a évolué là aussi. Hein. Au départ, il y en avait un par an, voire deux maximum. Quand je suis arrivé en responsabilité, il y en avait 4 aujourd'hui, il y en a 6 par an. Donc on en voit l'utilité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des études, la dernière était de 2017, on s'aperçoit à quel point les cadurciens le lisent. Ils sont attachés, il est extrêmement identifié aujourd'hui. Et avec des retours quand même plutôt positifs de manière globale, avec une reconnaissance de la crédibilité, de l'objectivité. Et ça, c'est aussi le talent des personnes qui travaillent à la communication et qui en font évidemment un magazine qui est là pour raconter, hein, ce qui est pour expliquer ce que fait la municipalité, mais pas que, pour aussi expliquer ce qui se passe dans la ville et finalement celles et ceux qui font la ville.
Cahors Mag, forcément vous pensez à son évolution. Est-ce que ça veut dire qu'il sera par exemple en numérique et qu'on arrêtera la distribution papier ?
Alors à mon avis, c'est justement la faute qu'il ne faudrait pas faire, parce que c'est une revue auquel les gens sont attachés et qui finalement doit être, l'évolution doit se faire petit à petit. On l'a dit tout à l'heure, ça a évolué depuis 1975, mais pas tellement dans le contenu, dans la ligne éditoriale. Peut-être qu'aujourd'hui, on va encore un petit peu plus sur ce qui fait la ville. On va parler des acteurs économiques, on va parler des associations. Peut-être qu'à l'époque, on personnalisait beaucoup plus autour de l'élu. Là, on voit quand même un peu moins les élus et c'est heureux, parce que ce qui est important, c'est que ça soit un outil qui participe à cette démocratie, qui donne les choses avec la plus grande objectivité possible. L'opposition a sa place aussi pour, à un moment donné, jouer son rôle d'opposant. Et que chacun puisse faire son idée de manière la plus objective sur la qualité du travail qui est mené pour conduire cette ville.
Donc un magazine papier qui restera sur papier et qui plus est, papier recyclé à partir de ce 100e numéro.
Exactement, important de garder cette impression papier. Chaque fois qu'on fait des enquêtes, les cadurciennes et les cadurciennes nous le rappellent. Le numérique, c'est pas la même chose. On ne peut pas le mettre de côté, on ne peut pas le reprendre quand on veut. On ne peut pas se poser, c'est beaucoup moins matériel forcément. Et donc ça disparaîtra pas, c'est une évidence. Et puis évidemment, on s'adapte aussi à l'environnement, puisque un des éléments importants de ce nouveau magazine, c'est qu'il est 100% recyclé. Alors il avait déjà quelques éléments respectueux de l'environnement auparavant, mais on n'était pas encore arrivé à avoir le 100% recyclé. Désormais, c'est le cas.
Merci beaucoup, monsieur le maire.
Je vous en
Jean-Marc Vessousfort, donc le maire de Cahors et aussi donc le directeur de la publication de Cahors Mag, dont le 100e numéro arrive dans vos boîtes aux lettres, si ce n'est déjà fait. Et d'ailleurs, à ce propos, le service archive est à la recherche de certains numéros pour les mettre à disposition en consultation, notamment si par chez vous, vous détenez Cahors, revue municipale de 1977 à 1989, Objectif Cahors, les numéros 9, 10, 11, 16, 20 qui sont parus entre 1992 et 1989, ou même encore Cahors Magazine. On recherche notamment les numéros 1, 5, 6, 10, 39 et 59. Donc si vous les avez chez vous, on ne sait jamais, n'hésitez pas à contacter le service de la ville. Et puis surtout, bonne lecture, d'autant plus qu'on y voit encore une ancienne page de publicité et ça m'amuse parce qu'il y a la publicité pour des marques qui n'existent plus comme Prise Unique sur la place Imbert et le Crédit Lyonnais sur le boulevard Gambetta. Voilà, un numéro à découvrir. Et on va parler culture dans quelques instants avec la rediffusion de cette interview de Véronique Do, la directrice du théâtre de l'usine à Saint-Céré. Ils appellent à un rassemblement ce samedi 20 mars à 15h devant le théâtre de l'usine, avec bien entendu le port du masque et compagnie, pour soutenir la culture. Alors pour comprendre effectivement la détresse, si je puis dire, des gens de la culture, il était bon de revoir cette interview que voici juste après Le Nouveau Monde de William Scheller.
Que mes mots dépassent le peu de raison que je tienne quand vous laissez ma peine en disgrâce. Devant votre indifférence, je perds un amour immense pour lequel j'avais au départ, comme au jeu de hasard, peu de chance. Des maisons de France, avec leur magnificence, n'égaleront jamais en vous cet orgueil qui se joue d'insolence. Des opéras de misère vous feront gloire de l'enfer. En découvrant le goût de l'absence. Long est le chemin qui me mène vers le nouveau monde, aussi longue est la nuit qui me fait penser à vous.
FM Cahors, la mémoire du rock. La mémoire du rock. CFM Cahors, le mag.
Et de retour dans votre mag sur CFM Cahors, nous allons réécouter l'interview que nous avions effectuée. C'était le 5 mars dernier avec Véronique Do, directrice du théâtre de l'usine et donc de l'association Scénographe qui appelle à un mouvement de soutien de soutien au mouvement national. Alors que Huguette Tienna a parlé hier dans le magazine de son soutien à la culture et de la manière dont le gouvernement soutenait aussi le secteur culturel, eh bien, pour l'instant, ces acteurs-là n'ont pas l'impression d'être écoutés. Et il est important de réentendre cette interview. Bonjour Véronique Do.
Bonjour.
Bonjour à toutes. Directrice du théâtre de l'usine. C'est la mort dans l'âme que vous avez décidé il y a quelques semaines de cela, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, entre parenthèses, de dire ben, finalement notre programmation, elle est annulée. Alors comme j'aime demander à tous les acteurs du secteur culturel, comment est le moral ?
On essaye de le garder au beau fixe, mais de se projeter dans l'avenir. Mais c'est pas facile, hein. Je vous avoue que en ce moment, nous sommes contraints, nous, d'annuler la saison depuis novembre. Mois par mois, on a fortement espéré ouvrir pour le 15 décembre. C'était vraiment, s'en faisait une grande joie. On avait remanié nos programmes sur cette dernière semaine de décembre. Et puis, tout est tombé à l'eau encore une fois. Et depuis, Nous attendons un peu désespérément une date de réouverture et nous annulons les spectacles mois par mois. On espère encore réouvrir début avril, mais plus les jours passent et plus je pense que c'est encore une date qui sera remise à plus tard.
Est-ce que vous avez des échos des représentants du secteur qui ont été voir la ministre? Alors évidemment, on l'a entendu donner des nouvelles consignes pour, par exemple, que les festivals aient lieu cet été. Mais au point de vue des théâtres, est-ce qu'on vous a donné une visibilité à terme?
Oui, ben on a des nouvelles, hein, puisque on a l'information circule dans la profession. On a des représentants effectivement syndicaux qui discutent avec le ministère, avec les ministères. Oui, on a des nouvelles, mais qui sont pour l'instant très très parcellaires et qui ne nous permettent pas d'envisager une réouverture rapidement.
Pas de date, c'est-à-dire que même pour cet été, vous savez pas en fait.
Non, on sait qu'on va pouvoir faire, on sait que les festivals pourront avoir lieu, mais on ne sait pas dans quelles conditions. On ne sait pas quelles seront les mesures sanitaires et notamment les questions de distanciation des spectateurs, qui est une question importante pour nous. Alors c'est vrai que les problématiques sont différentes d'écosystèmes, par exemple, hein, puisque nous, on n'est pas du tout sur du debout, on est sur de la scie. Mais de la scie en intérieur, avec quelle distanciation? Est-ce que de la scie en extérieur, il va falloir une distanciation? Tout ça, c'est des choses qu'on ignore pour l'instant.
Est-ce que vous comprenez cette situation et ces décisions qui sont prises?
On comprend que personne n'a la solution miracle par rapport à cette crise sanitaire. Maintenant, on aimerait bien pouvoir envisager plus sérieusement des possibilités de travail, parce que là, c'est quand même une situation qui nous met en grande, grande difficulté. Et on ne comprend pas, enfin moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi depuis cet automne, les supermarchés, par exemple, sont ouverts sans contrôle de jauge. On a vu au moment des fêtes le monde qu'il pouvait y avoir, et nous qui respectons tous les protocoles, nous ne pouvons pas ouvrir. Voilà, il y a une certaine incompréhension à ce niveau-là. Oui.
Vous pensez subir une injustice alors ?
On pense subir des choix politiques, oui, ça, sans aucun doute, mais...
Il y a certaines personnes qui font soit des concerts en réalité virtuelle, d'autres qui finalement, puisqu'ils ne peuvent pas présenter leur pièce de théâtre, le tournent dans un lieu, un vrai lieu, pour être diffusé en streaming. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose de plus compliqué de se réinventer pour le secteur culturel ?
Ce qui est compliqué, c'est que... Quand on parle de secteur culturel, il faut préciser, nous on parle de spectacle vivant. La caractéristique première du spectacle vivant, c'est la rencontre et c'est l'émotion en direct entre des artistes sur un plateau, quelle que soit la discipline, et un public présent dans sa chair, dans ses émotions, dans son cœur, dans sa tête, et que le partage des émotions avec un écran d'ordinateur, c'est pas du tout la même chose. Donc, je crois que la rencontre, c'est quelque chose qui peut pas se réinventer. On peut réinventer des formes artistiques, mais comment réinventer la rencontre de deux êtres, l'artiste et le spectateur? C'est forcément un moment de partage en direct. Et à partir du moment où on nous enlève cette possibilité, effectivement, c'est compliqué. Alors après, on a, l'été dernier, nous avons réinventé un festival, l'impromptu festival, qui a pu rassembler quand même plus de 6000 spectateurs, parce que nous avons choisi des lieux en extérieur, des petits formats artistiques, enfin voilà, tout un certain nombre de contraintes liées à la crise sanitaire. Donc on a pu réinventer un événement, mais réinventer la rencontre sans la rencontre, c'est quelque chose qui est très compliqué. Oui.
Ça ne serait plus du théâtre, du spectacle vivant dans ce cas-là, alors, si je comprends bien.
Pour moi, c'est plus du spectacle vivant. Et on le voit bien, même chez les adolescents ou les jeunes, ils finissent par regarder 1, 2, 3 concerts en streaming, puis au bout d'un moment, toutes les études montrent qu'ils ne regardent plus de concerts. Parce que on n'a pas la chaleur, on n'a pas la magie, ça n'est plus du concert. Voilà, c'est autre chose.
Au théâtre de l'usine, Véronique Do, quelles sont les conséquences économiques depuis cette crise sanitaire ?
La saison est quasiment morte. Hein. On est fermé depuis fin octobre. Je ne sais pas si on pourra ouvrir en avril, en mai. Au jour d'aujourd'hui, en tout état de cause, je travaille à renforcer la fin de saison que jusqu'à présent était pour nous un moment un peu d'activité plus réduite, consacrée à des résidences, consacrée à des spectacles amateurs, d'écoles, d'ateliers, etc. Donc cette année, on va essayer de renouveler la programmation jusqu'à l'été. Et puis, on travaille actuellement sur la programmation des festivals avec une programmation, je dirais, dans un format plein. Et puis, des plans B, des plans C, des plans D, pour arriver à sortir une programmation cet été, quoi qu'il arrive.
On a bien compris, donc tricoter, détricoter, retricoter, redétricoter pour retricoter, c'est votre quotidien en ce moment. Merci beaucoup.
Depuis presque un an.
Effectivement, ouais. Hélas, malheureusement. Donc vivement l'ouverture et qu'on en finisse vivement. Et qu'on puisse venir vous rejoindre au Théâtre de l'Usine. Merci beaucoup Véronique Do.
Merci à vous, à très bientôt j'espère.
Et on vous rappelle, donc le rassemblement, c'est sur le parvis du Théâtre de l'Usine, ce samedi 20 mars à 15h à Saint-Céré. Alors oui, c'est bien une musique de Jean-Michel Jarre, c'est bien Oxygène Partie 4, mais ce n'est pas Jean-Michel Jarre, c'est Hank Marvin. Hank Marvin qui était du groupe The Shadows dans les années 60, et c'est vrai que c'est un guitariste hors norme. D'ailleurs, il est considéré comme l'étalon or du son de la Fender Stratocaster. Je ne sais pas si je l'ai bien dit correctement, ça aussi. Et c'est grâce à Dany de l'émission Top of the Pop qui m'a fait découvrir ça. Et donc, voilà, on se fait partager. Et Dany, vous allez le retrouver ce soir, d'ailleurs, à 19h, dans Top of the Pop, consacré au Festival de Monterey. C'était en été 1967. Ce magazine est à réécouter en podcast sur cfmradio.fr et également tout à l'heure à 17h et à 21h30. Dans un instant, le journal.